Bonjour Sandrine Floreus, la vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne en charge des égalités, du dialogue citoyen et des jeunesses. Merci d'être au rendez-vous de cette matinale. Je vous invite à vous exprimer ce matin sur Radio Présence parce qu'une annonce très importante a été faite il y a une semaine, conjointement par la préfecture et le conseil départemental de la Haute-Garonne, celle du lancement d'un observatoire départemental des violences faites aux femmes. Vous allez nous présenter plus en détail cette structure et son fonctionnement. Mais je voudrais qu'on parle d'abord du contexte et des raisons qui ont motivé sa création. On sait que depuis le début de la crise sanitaire, les violences envers les femmes ont considérablement augmenté en France. Qu'en est-il en Haute-Garonne ?
Eh bien, bonjour, Eric. En fait, en Haute-Garonne, la crise sanitaire n'a pas épargné les foyers au Garonnais et on a enregistré plus de 500 nouvelles victimes pendant le confinement. Sur le plan national, on était à 42% d'augmentation des violences faites aux femmes et en Haute-Garonne, on est à 30%. Et pour vous donner un chiffre très précis, on a enregistré 4353 faits. Ça veut dire que 4353 femmes ont déclaré avoir été victimes, ce qui veut dire que beaucoup d'autres n'ont pas fait cet acte-là. Ça signifie que le nombre des violences est largement supérieur.
Oui, alors effectivement, il y a une partie émergée et immergée de l'iceberg, si
Exactement.
Je puis dire. Alors, quand on parle de violences faites aux femmes, de quoi parle-t-on précisément ? Est-ce que ça concerne autant les violences physiques que psychologiques et morales ? Je pense notamment au harcèlement.
Alors, c'est une très bonne remarque. Effectivement, les violences ne se caractérisent pas uniquement par ce que l'on peut retrouver dans le code pénal, c'est-à-dire beaucoup de violences, notamment d'ordre sexuel, même si elles représentent 25% de l'ensemble des violences. Les violences, cela peut tout simplement relever effectivement du harcèlement, ça peut relever aussi de ces violences psychologiques qui, on va en parler après, hein, l'Observatoire va le démontrer, sont le début, souvent, les prémices, ces violences psychologiques, à des violences beaucoup plus importantes, physiques, voire sexuelles. Mais ce sont l'ensemble de ces violences qui constituent les faits que l'on reçoit au centre départemental.
Est-ce qu'il s'agit essentiellement de violences à l'intérieur des couples, de violences intrafamiliales ?
Alors, ce sont majoritairement, effectivement, des violences intrafamiliales, effectivement. Les violences de rue sont aussi signalées, mais globalement, et le confinement a été un accélérateur malheureux, ce sont des violences intrafamiliales, effectivement.
Alors, je vais poser une question peut-être qui fâche un peu, mais on pense évidemment, lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, à des violences commises par des hommes. Est-ce qu'il existe malgré tout des femmes agresseuses d'autres femmes ?
Oui, il existe des femmes agresseuses d'autres femmes, des femmes agresseuses d'hommes et des hommes entre eux, puisque sur les 6 meurtres qui concernent ce qu'on appelle des violences extrêmes intraconjugales, sur les 6 meurtres, il y en avait 3 qui étaient commises par des hommes sur des femmes et les 3 autres relèvent des couples homosexuels. Donc malheureusement, la violence, même si elle est globalement vis-à-vis des femmes, si les femmes sont les premières victimes, c'est quand même important de le dire, cela concerne tous les couples, quel que soit leur genre et quelle que soit leur tendance sexuelle, effectivement, et leur orientation sexuelle.
Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est quelle est la sociologie des femmes qui subissent des violences ? On pense souvent que ça concerne avant tout et surtout les milieux dits défavorisés. Or, je crois que toutes les classes sociales sont touchées, sans exception.
Alors, effectivement, il y a un lieu commun qui pourrait faire penser que dans des milieux défavorisés, dans des milieux de précarité sociale, on va rencontrer une violence aggravée. Et cela est faux. Les observatoires montrent extrêmement bien que malheureusement, les phénomènes de violence, ces comportements touchent toutes les catégories sociales et touchent toutes les générations. Nous avons des exemples de très jeunes et nous avons des exemples de couples très âgés où la violence s'exerce. Donc malheureusement, ce sont des phénomènes que nous traitons sur toutes les catégories sociales et sur toutes les générations.
Ouais, il me semblait très important de le préciser. Est-ce qu'il y a un profil type de l'agresseur? Est-ce que, par exemple, notamment souvent des raisons dues à l'alcoolisme ou à l'emprise sous certains psychotropes, drogues et choses de ce genre?
Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que ça se détecte très facilement. Pour les femmes qui sont majoritairement victimes, elles peuvent facilement repérer les déviances de leur compagnon, de leur conjoint, de leur mari quand c'est le cas d'utilisation de drogue, d'alcool. Non, le profil type de l'agresseur, il est extrêmement simple. C'est quelqu'un de psychologiquement perturbé, dérangé, je le dis avec des mots simples, hein, pas avec des mots de l'univers médical et de l'univers psychiatrique, puisque cela relève de comportements déviants et donc
pervers.
De la psychiatrie, oui, hein, et oui. Pervers. Et voilà. Et donc, Ernestine René, qui était notre grand témoin lundi dernier, qui a observé ces phénomènes pendant plus de 40 ans, disait que c'était toujours le même profil. C'est quelqu'un qui a une déviance, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans toutes les catégories sociales et dans toutes les générations. Voilà, c'est une déviance qui, la personne est très charmante au début, et puis après, elle organise un système de dénigrement, d'isolement de sa victime. Et donc, vous parliez tout à l'heure de quel type de violence, comment elle était caractérisée. Ça commence par une violence psychologique, par un harcèlement, un dénigrement. Et après, malheureusement, ça finit toujours par une violence physique, voire sexuelle.
Phénomène d'emprise, puis la menace physique, puis le passage à l'acte. On va parler maintenant de cet observatoire départemental des violences faites aux femmes. Quelles vont être ses missions et comment va-t-il fonctionner?
Alors, l'observatoire, il a trois grands axes. Il est parti de deux constats, c'est-à-dire que chacun faisait dans son coin, le conseil départemental qui accueille avec ses maisons des solidarités des personnes victimes, des médecins en libéral dans le privé qui constataient quand elles soignaient des femmes qu'elles avaient qu'elles subissaient des violences faites aux femmes. Et en fait, on est parti du constat que tout le monde travaillait avec des moyens séparés et que, par exemple, un médecin nous racontait, le directeur départemental de l'Agence régionale de santé, qui constate qu'une femme est victime de violence, elle va la soigner physiquement, mais elle fait quoi après? L'idée de l'observatoire, c'est de mettre en synergie et en mouvement tous les acteurs, les médecins, les assistantes sociales, la police, la justice, la gendarmerie, pour qu'il y ait un lien permanent et un suivi permanent et une prise en charge globale de la femme ou de la victime de violence. Voilà, donc l'observatoire, il est parti de ce constat-là. Il est de se dire, tout le monde fait du mieux qu'il peut dans son secteur, mais il n'y a pas forcément de synergie et d'accompagnement dans la durée et dans la prise en charge globale de la personne. Et l'observatoire, c'est une de ses missions. Comme son nom l'indique, c'est aussi un endroit où on va observer et regarder qui vient, la sociologie, les processus, de façon à poser les bons diagnostics, les diagnostics les plus justes pour mettre à côté les moyens et les réponses les plus adaptées aux diagnostics que nous allons faire. Donc un axe à la fois d'observation et d'étude et un axe de travail et d'action avec, lundi dernier, c'était une réunion avec 300 professionnels, police, justice, gendarmerie, État, conseil départemental, ce n'était que des professionnels. Un troisième axe, pour finir de répondre à votre question, c'est un axe de vulgarisation et de communication. Il faut que l'on puisse parler, et je vous remercie ce matin d'évoquer ce sujet, il faut qu'on puisse rendre visibles ces violences faites aux femmes. Il faut que la parole des femmes, pardon de ne parler que des femmes, parce que c'est quand même majoritairement
bien sûr,
à 90% les femmes et leurs enfants. Et leurs enfants qui sont victimes des violences. Donc, il faut un axe d'action, un axe d'observation et un axe de communication. Il faut que tout ça soit visible et il faut que la parole de ces femmes, et vous l'avez dit très justement tout à l'heure, vous avez parlé d'emprise, puisse sortir de cette emprise, puisse comprendre les processus dans lesquels elles sont enfermées par leur agresseur. Et ça passe par une communication grand public.
Oui, parce que souvent, je crois qu'il y a des femmes qui peuvent se présenter, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles n'arrivent pas à formuler, elles n'arrivent pas à dire les choses. Et le but aussi de cet observatoire et de ceux des acteurs qui vont y participer, c'est d'arriver à les faire parler, à les mettre suffisamment confiance pour qu'elles puissent s'exprimer.
Voilà, vous avez tout compris, c'est exactement ça. Et un des axes majeurs de cette journée, à travers tous les ateliers que l'on a mis en place, c'était la formation aussi de ces professionnels. Parce que quelles que soient leurs compétences, leurs qualités, leur engagement, on a besoin d'avoir des éléments de compréhension pour faire passer le cap à ces femmes qui sont sous emprise. Et ça prend du temps. Et souvent, dans nos entourages, on connaît des femmes victimes de violences et on se dit, mais pourquoi elles ne s'en vont pas? Pourquoi elles ne partent pas? Parce que les processus psychologiques qu'elles subissent sont très longs à déconstruire. Et ça, ça passe par la formation des professionnels pour les amener à avoir le déclic. Et souvent, nous, on constate au conseil départemental, on travaille beaucoup en lien avec nos collègues du logement, parce qu'il faut qu'elles aient un logement, qu'elles se sentent en sécurité pour franchir le cap. Elles font la demande de logement, et au moment où on va leur attribuer, l'agresseur le comprend, il change d'attitude, et elles repartent vers leur agresseur. Donc, il y a un vrai travail de la part de l'ensemble des professionnels, État, justice, police, assistante sociale, association, et elles sont nombreuses les associations, pour avoir une formation adéquate, pour déconstruire les processus dans lesquels les femmes qui sont sous emprise se retrouvent. Et c'est ce travail aussi de l'Observatoire, de partager des bonnes pratiques, de partager des éléments de langage et de travailler pour déconstruire et que ces femmes puissent se sentir en toute sécurité, libérer leurs parents et aller jusqu'au bout de leurs actions de libération.
Alors, puisque vous en parlez, on va être très concret, très pratique hein, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui se posent forcément la question, si l'on est témoin ou si l'on soupçonne des violences sur une femme de notre connaissance, de notre entourage, de notre voisinage, à qui doit-on s'adresser en priorité?
Alors, vous avez deux possibilités très simples. Vous faites le 3919. Et donc vous allez tomber sur un numéro d'écoute nationale qui va prendre en compte le signalement que vous formulez et qui est là 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça a été étendu et donc vous êtes 23 heures, vous entendez votre voisine crier, vous avez compris que c'était pas la première fois, donc vous faites le 3919 et on va prendre en charge immédiatement votre appel. Vous avez aussi la possibilité d'une plateforme de signalement en ligne qui s'appelle Arrêtons les violences, tout attaché, .gouv.fr, qui a elle aussi été renforcée, ou alors un SMS, vous faites le 114, vous signalez une adresse et on va immédiatement intervenir. Donc quand je dis on, les services sociaux vont être alertés, police, justice, gendarmerie, en fonction de la localisation. Donc vous voyez, le 3919, arrêtonslesviolences.gouv.fr ou le 114 par SMS. C'est simple, c'est clair et vous signalez la violence dont vous pensez être le témoin.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions très précieuses, Sandrine Floreuse. Je vais vous souhaiter, malgré les sujets qu'on vient d'évoquer, qui sont très graves, une bonne journée et bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année, malgré aussi ce contexte sanitaire assez inquiétant, il faut bien le dire. J'invite nos auditeurs à consulter le site du Conseil départemental de la Haute-Garonne, www.haute-garonne.fr. À la catégorie service, il y a une rubrique violences faites aux femmes. Vous verrez une présentation très détaillée